Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation. Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat.
C'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, j'espère que vous allez bien. Marianne Paquette au micro pour vous accompagner au cours des 30 prochaines minutes. C'est l'émission C'est bon pour la santé sur Canal M. Et aujourd'hui à l'émission, un retour sur la rentrée scolaire qui s'est effectuée pour tous les élèves québécois, en tout cas du moins la majorité, j'imagine, au cours de la semaine dernière. Et je m'intéresse aujourd'hui notamment aux plus petits, donc ceux qui ont vécu cette transition entre la garderie et l'école, qui est un grand changement pour eux, qui peut susciter beaucoup d'enthousiasme. Et ça, on le souhaite, bien sûr, en tant que parent, mais aussi du stress, de l'appréhension. Tout à l'heure, avec Solène Bourque, en deuxième partie d'émission, elle qui est psycho-éducatrice et auteure, on voit comment on peut encadrer notre tout-petit à cette rentrée scolaire. Et puis demain, c'est la Journée mondiale de prévention du suicide sous le thème « Merci de t'engager en prévention du suicide ». Une journée donc qui est essentielle, et d'ailleurs, c'est la 13e édition. Donc, j'imagine que ça sert à quelque chose. Et ça sert notamment à encourager la discussion autour de la santé mentale et toujours à éloigner les tabous qui sont encore liés, de moins en moins par chance, justement parce qu'on en parle et grâce à une journée comme celle-là. Et un thème aussi qui est tout à fait pertinent à mon sens et qui a inspiré l'émission d'aujourd'hui, donc la prévention du suicide. Et j'en parle avec Dr Gustavo Turicchi, lui qui est co-directeur de la Banque de cerveau de l'Institut universitaire en santé mentale Douglas, également directeur du département de psychiatrie Université McGill et plein d'autres choses. On le rencontre à l'instant. Dr Turicchi, bonjour.
Bonjour.
J'ai dit plein d'autres choses parce que votre CV est assez fourni, je dirais. Vous travaillez à la Banque de cerveau, oui, de l'Institut universitaire en santé Douglas, qui a comme spécialité la recherche sur le suicide. Vous êtes plongé tous les jours sur cette problématique qui est majeure, évidemment. Et tout à l'heure, au cours de la journée, quand j'exposais à mes collègues et à mes amis le sujet du jour, ben, je parle de prévention du suicide. Évidemment, les visages se déforment un petit peu, des moues plus soucieuses. Bon, on n'aime pas parler de ça. C'est un sujet qui est délicat, c'est un sujet qui est lourd. Quelles sont les données les plus récentes, les plus probantes en matière de prévention du suicide?
Bon, d'abord, c'est important d'en parler. C'est important de démystifier les suicides et enlever les préjugés qu'on a normalement vis-à-vis la maladie mentale et les suicides comme conséquence de la maladie mentale. Donc, c'est important toujours de garder en tête que les suicides est un phénomène qu'on peut prévenir, on peut aider les gens à risque et minimiser leur risque de suicide. Donc, comment le faire? Ben, il y a plusieurs façons de le faire. Une, c'est sûr, c'est de démystifier, aider les gens. En démystifiant les suicides, on aide les gens à aller chercher de l'aide quand ils en ont besoin. Deuxièmement, c'est de vulgariser, en fait, les facteurs de risque, les problèmes, et aider les systèmes de santé, aider les médecins à mieux faire un dépistage des gens à risque et par la suite de mieux donner les traitements quand nécessaire.
Mais ça, c'est assez intéressant parce que l'on a parlé dans les derniers mois de l'accès aux soins, beaucoup notamment à l'accès à des psychologues, qui peut être un petit peu parfois plus ardu. Est-ce qu'il y a des solutions dans le milieu hospitalier pour faciliter, on parle de psychologues, mais d'autres spécialistes de la santé qui agissent en santé mentale et qui seraient là pour offrir de l'aide plus rapidement aux gens dans le besoin?
Ouais. Ben, effectivement, ce n'est pas un secret, on a de la difficulté au niveau du système. L'accès, ce n'est pas toujours évident. Malgré ça, des services existent. Il y a des services, pas seulement des services médicaux, il y a des services communautaires qui aident les gens en crise. Les services sont là disponibles. Les problèmes suivants, c'est que les gens qui ont besoin d'aide, ils ont accès aux services, mais les intervenants, les médecins, ne reconnaissent pas toujours les gens à risque.
Oui, les signaux d'alarme.
Voilà. Hein?
Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'une personne est à risque d'avoir des comportements suicidaires?
Bon, donc, D'emblée, le risque majeur est associé à la maladie mentale et surtout à un tableau dépressif.
Ouais.
Donc, c'est la présence d'un tableau dépressif qui est souvent associé avec les gens à risque. Et avec les tableaux dépressifs, on va voir normalement le développement des idées suicidaires. Parfois, ces tableaux dépressifs va débuter d'une façon très vite et avec ça vient des idées suicidaires très intenses.
Oui.
Donc, il n'y a pas une règle spécifique. Malheureusement, c'est de cas par cas.
Oui, et c'est ce qui fait qu'il faut être encore plus attentif, j'imagine, encore plus de bien observer tous ces signaux-là. Ce qui vous intéresse, je pense, vous, d'entrée de jeu, ben, en fait, ce qui vous intéresse dans votre recherche, c'est de savoir comment certaines personnes dépressives n'ont pas de pensées suicidaires et d'autres vont en avoir. Est-ce que vous avez réussi à élucider cette question-là?
Mais en fait, la plupart des gens qui ont tableau dépressif ont des idées suicidaires. Oui, parfois, ils vont les avoir carrément, très clair, et ça qu'on appelle des idées suicidaires actives, avec un plan, avec une intention suicidaire. Et parfois, il y a des gens qui ont de ce qu'on appelle des idées suicidaires passives, c'est-à-dire ils ont le désir de mourir, étant donné la souffrance qui est présente avec un tableau dépressif, mais ils n'ont pas nécessairement les idées plus structurées pour aller faire quelque chose.
Ce qui vous intéresse aussi, Dr Turicki, en tant que co-directeur de la Banque de cerveau de l'Institut universitaire en santé mentale Douglas, c'est de comprendre comment le cerveau change à travers un épisode dépressif. Est-ce qu'on a des réponses par rapport à ça?
Mais on a des pistes.
Ouais.
C'est sûr que nos émotions sont codées dans notre cerveau. C'est-à-dire que quand on parle, quand on sent, etc., notre cerveau va changer d'une façon dynamique, tu sais, nous, on s'intéresse à voir, bon, quand quelqu'un devient très dépressif au point de penser à la mort et de vouloir mourir, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de ces gens? Est-ce qu'il y a des changements qui sont spécifiques à ce type de pensée? C'est sûr que le cerveau est un organe qui est très complexe, qui on connaît très, très peu de son fonctionnement.
Et qui est en mouvance constamment. Hein?
Constamment. Donc, c'est un organe plastique, on dit, qui adapte constamment à l'environnement et sa fonction, c'est d'apprendre, n'est-ce pas? Donc, on connaît très, très peu. Par contre, il y en a de certaines pistes, tu sais, des altérations qui changent avec un tableau dépressif ainsi que des choses qui changent pendant la vie, qui peut mener la personne plus à risque.
Donc, le vécu d'une personne.
Voilà.
Donc, à ce moment-là, les événements du passé, on pourrait penser à des épisodes de violence, différents abus, tout ça, une enfance plus difficile, ça ferait partie du tableau qui pourrait mener à des comportements suicidaires.
Absolument. Donc, les suicides, c'est un phénomène complexe, la façon comme on le voit. C'est-à-dire que il y a des gens qui ont certaines prédispositions. Ils ont des facteurs, soit des facteurs au niveau de la famille, tu sais, qui ont une histoire familiale plus lourde pour le suicide, ou ont vécu des choses dans leur vie qui l'amènent plus à risque de se suicider. Ça ne veut pas nécessairement dire que les gens qui ont une histoire familiale de suicide vont se suicider, non plus que les gens qui ont vécu des expériences difficiles
bien
vont
sûr
se suicider. Ouais, mais c'est un risque. Ouais, donc, c'est vraiment un risque statistique. Il y a d'autres facteurs aussi qui amènent les gens plus à risque. Quand les gens qui sont à risque, en plus, deviennent dépressifs, et avec la dépression, ont des idées suicidaires, donc ce sont des gens qui ont un risque plus accentué d'avoir des comportements suicidaires, sur des faire tentatives de suicide.
On parle de facteurs héréditaires, de facteurs biologiques, psychosociaux également. Il y a aussi, et bien sûr, vous me corrigez si je me trompe, des facteurs environnementaux. On sait qu'au Québec, il y a un taux de moins en moins, par chance, mais un taux assez élevé de suicide, notamment chez les hommes, plus qu'ailleurs dans le monde. On explique ça comment?
Mais écoutez, il y a des facteurs qu'on appelle individuels, c'est de la personne, oui. Donc, c'est biologique, c'est-à-dire, bon, dans les cerveaux, c'est biologique, c'est. Et l'histoire de vie a un impact, il y a un dialogue constant entre le cerveau et la personne. Donc, il y a des facteurs individuels de la personne, il y a des facteurs sociaux. Ouais. Donc, il y a des choses qui se passent dans la société, dans un certain moment historique, qui amènent plus de stress dans la société. La façon qu'on comprend, c'est que c'est une combinaison. Ouais. Donc, quand il y a une situation de plus de stress dans la société, les gens qui sont plus à risque, qui ont des vulnérabilités individuelles plus élevées, donc sont des gens qui sont plus vulnérables donc, à agir d'une façon ou de manifester un comportement suicidaire ou de devenir déprimé, etc. Donc, c'est une interaction entre ces deux facteurs. La façon comment on comprend les différences, parce que c'est pas stable avec les temps. Donc, les taux de suicide changent avec les temps. Ils changent aussi dans des pays pendant les temps.
Des périodes de temps aussi. Donc, ça peut être intéressant même d'étudier le volet historique à quelque part et voir qu'est-ce qui s'est passé dans un pays ou une région donnée à tel moment et voir les impacts sur la santé mentale de la population.
Absolument, absolument. Donc, il y a des gens qui font ça. Il y en a aussi, clairement, des changements dans les taux avec les temps, dans des régions du monde aussi.
Je me demande, Dr Toriki, bon, si le cerveau change et se modifie sans cesse, et qu'il change notamment quand une personne vit un épisode plus dépressif, est-ce que cette personne-là, bon, même suite à sa guérison, lorsqu'elle va mieux, va rester fragile face à la dépression, à la maladie mentale et au suicide?
Donc, ça dépend. Oui, il y a des gens, effectivement, qui vont rester avec une certaine fragilité associée, par exemple, au tableau dépressif. Donc, soit que la dépression va revenir avec les temps, donc il va y avoir des épisodes récurrents, on appelle, ou même que peut rester avec un tableau chronique dépressif. Mm-hmm. Donc, il y a cette possibilité, mais il y a aussi, clairement, une grosse majorité des gens qui vont s'en sortir et que l'épisode dépressif va être guéri et que, par la suite, ne vont pas nécessairement avoir
une récidive.
Par contre, la vulnérabilité individuelle peut rester et dépendamment de qu'est-ce qu'on parle. T'sais, donc, si on parle de facteurs de risque comme familiaux, de facteurs de vécu de la personne, ben, ça demeure jusqu'à un certain point. T'sais, on peut toujours travailler, on peut aider la personne, mais on peut toujours, on peut pas nécessairement complètement effacer et éliminer les facteurs de risque.
Quelle est l'attitude à privilégier lorsqu'on approche une personne qui vit un épisode dépressif, a des comportements suicidaires?
Ouais. Donc, d'abord, le plus important, c'est aider cette personne à avoir accès aux services. Ouais, parce que...
Rapidement, si possible.
C'est sûr qu'il faut aussi avoir en tête que la grosse majorité des gens qui ont un tableau dépressif ou même qui font des tentatives suicidaires ne vont pas décéder par suicide. Ouais? Donc, c'est qu'une minorité. Donc, les jugements, c'est un jugement clinique que la personne, les spécialistes, va faire. Ouais? Ça ne veut pas nécessairement dire que s'il y a un tableau dépressif, que nécessairement la personne va se suicider ou qu'il y a
un particulièrement, risque pour sa vie,
particulièrement plus à risque. Donc, par contre, les gros problèmes, c'est que souvent, comme je disais avant, les gens, à cause du stigma, à cause des préjugés, ou à cause pour une façon de penser que dit, ben, tu sais, il faut étouffer ça, il faut être dur,
il faut être plus fort.
C'est une rationalisation qu'on dit, comme si amène tout à penser que c'est une question de caractère, je suis triste, je suis déprimé, c'est parce que j'ai une faiblesse de caractère. Voilà. Ça, c'est vraiment une mauvaise compréhension de la situation. Et donc, les gens qui sont vraiment dédains, ils perdent un peu la perspective, ils ont une altération dans leur jugement et donc souvent ne vont pas aller chercher de l'aide. Vont pas soigner. Donc, les proches, je pense que le plus important, c'est d'encourager, soutenir les gens dans les processus, de valider les problèmes. Ce n'est pas augmenter les préjugés, n'est pas augmenter les stigmas associés à ça.
Non, pas refouler le problème, mais le valider, je trouve que c'est un verbe qui a beaucoup de sens. Oui.
Et par la suite, on a un problème, de la même façon qu'on a un problème, mettons, c'est un problème physique, on va aller chercher de l'aide. T'sais, on ne va pas l'ignorer ou lui dire que ça va passer après,
Oui. En terminant, on l'a mentionné souvent, vous êtes à la tête, co-directeur de la Banque de cerveau du Douglas. Quel est le rôle de cette banque-là dans la recherche, dans la prévention aussi au suicide?
C'est un rôle énorme. Oui, c'est une banque de cerveau, c'est une source unique des tissus cérébrales pour les chercheurs en neurosciences. Les cerveaux, différemment d'autres organes, on ne peut pas aller prendre un morceau de quelqu'un qui est vivant.
À éviter.
Ça, c'est à éviter absolument. Donc, la seule façon qu'il y en a d'avoir accès et étudier les cerveaux, c'est de l'avoir après les décès. On est très chanceux d'avoir accès à cette ressource qui est vraiment unique dans le monde, qui nous donne la possibilité d'avoir du tissu cérébral, des gens qui ont été atteints de problèmes de santé mentale, de maladies mentales, et qui se sont suicidés, et par la suite, aller pouvoir étudier, trouver des pistes pour pouvoir mieux soigner un jour et développer de nouveaux traitements. Donc, c'est un processus à long terme, mais sans ce type de ressources, on va arriver jamais.
Oui, non, c'est ça. Et on continuera à avoir des journées mondiales de prévention du suicide. On parle quand même de 3000 cerveaux, là. Vous ne travaillez pas avec tous ces cerveaux quand même, là.
Non, donc la banque de cerveaux, il y a 3000 cerveaux qui sont de différentes causes. Il y a des cerveaux, des gens qui sont décédés avec maladie d'Alzheimer, de Parkinson, c'est pas seulement du suicide.
Neurodégénérative aussi.
Neurodégénérative, donc, et de plusieurs maladies. Toutes les maladies qui touchent le cerveau, on a de spécimens dans la banque. Et la banque, donc, ce qu'il fait, c'est qu'il fournit du tissu pour des chercheurs au Québec, au Canada et au monde. Donc, on fournit plus de 1000 échantillons de cerveau par année pour la recherche un peu partout. Comme je disais, c'est vraiment une ressource très unique.
Et merci de le faire et merci d'avoir été là, Dr. Gustavo Tourecki. Je rappelle, vous êtes co-directeur de cette banque de cerveau. On peut aller sur le site du Douglas pour en savoir davantage. Également directeur du département de psychiatrie, Université McGill. Merci, au plaisir.
Merci.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens. Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux. Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse. Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevoix.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Solène Bourque, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychoéducatrice également, auteur de plusieurs bouquins, mais aujourd'hui, on va parler plus de Petit loup entre à l'école, bon, qui est sorti en 2012, et plus récemment, Petit loup se sent bien à l'école. Aujourd'hui, comment encadrer nos petits à la rentrée scolaire, là, ceux qui ont fait cette grande transition entre la garderie et l'école. Et pour les petits, on le sait, la nouveauté, ça peut être un petit peu effrayant. Ils sont bien accrochés à leur routine, ça les sécurise, tout ça. Comment, en tant que parents ou grands-parents ou peut-être même éducateurs, si certains nous écoutent, on peut faciliter cette transition-là?
Mais tout d'abord, comme parents, la première question à se poser, c'est comment nous, on vit ça comme parents? Parce que les enfants apprennent en nous regardant et absorbent aussi beaucoup nos émotions. Donc, si comme parents, on sent que c'est quelque chose de vraiment difficile pour nous, cette transition-là, qu'on sent que l'étape elle est grande, bon, aller dans la cour des grands, on s'en va à l'école, c'est quand même tout un changement. Faut d'abord peut-être être attentif à comment on se sent par rapport à ce changement-là pour pouvoir inculquer à notre enfant la confiance pour bien vivre cette nouvelle aventure-là.
Ça me fait sourire cette note-là de votre part, Solène, parce que... Bon, sur le fil d'actualité Facebook la semaine dernière, tous les parents, mes amis ou amis proches, amis plus loin, mentionnaient la rentrée de leurs petits, du moins ceux qui en ont, bien sûr. Et « Ah, maman pleurait en le regardant entrer dans l'autobus scolaire, où j'ai retenu mes larmes. » Et je trouvais ça bien mignon, bien sûr, mais en même temps, je me disais « Quel impact sur l'enfant qui voit sa mère pleurer? » Parce que, évidemment, les parents sont émus.
Oui, c'est ça.
Et c'est normal.
Mais c'est ému positivement et des fois un petit peu avec de l'anticipation négative de savoir qu'est-ce qui va se passer aussi. Là.
Surtout avec tout ce que l'on entend dans les cours scolaires, les cours d'école en ce moment, avec l'intimidation. Bon, évidemment, en tant que parent, on peut avoir des appréhensions.
Ouais.
J'imagine que de se renseigner sur l'école où notre enfant va aller, apaiser ces craintes-là, ça peut nous aider aussi.
Ça peut nous aider. Puis d'ailleurs, la majorité des écoles, habituellement au printemps, autour du mois de mai, font une première rencontre là, où les parents peuvent aller en classe, rencontrer l'enseignant, voir un petit peu la structure, l'horaire, comment la journée va se passer. Ça peut aider le parent à se sécuriser pour, par la suite, pouvoir sécuriser, préparer son enfant à cette nouvelle transition-là, en tout cas, ce changement-là dans sa vie. Donc, à partir du moment où nous, nos questions sont répondues comme parents, on peut plus sécuriser notre enfant. On est capable, avec lui, d'anticiper un petit peu les événements. Parce que l'enfant, jusqu'à 6 ou 7 ans, a un petit peu de difficulté à anticiper ce qui va se passer parce que c'est pas du concret pour lui. Il est beaucoup dans les expériences connues. Donc, ce qui est sécurisant, c'est ce qui est connu. Donc là, c'est de l'inconnu pour lui. Oui, ça peut générer un certain stress positif. J'ai hâte, je suis rendu grand, j'ai le goût d'aller à l'école. Mais d'un autre côté, un stress un peu négatif, comment ça va se passer? Est-ce que mon enseignante va être gentille? Est-ce que je vais me faire des amis? Donc, ça peut aussi générer un petit peu plus d'angoisse chez certains enfants.
Il faut, j'imagine, tenter de provoquer ou du moins, cette discussion, ce dialogue-là avec l'enfant qui devient très, très précieux à ce moment-là de la vie. Comment on peut l'amener à identifier ses émotions?
En fait, il y a différentes façons. C'est sûr qu'on peut poser des questions à la fin de la journée. Je dirais qu'il ne faut pas devenir trop envahissant à un moment donné, permettre à l'enfant aussi de décrocher quand il arrive de l'école, de pouvoir se changer les idées, mais de poser des questions au lieu de dire, par exemple, est-ce que tu as aimé ta journée? Là, la réponse possible, c'est oui, non. Donc, plutôt, avec quel ami tu as joué aujourd'hui? Raconte-moi quelque chose que tu as beaucoup aimé dans ta journée. Qu'est-ce que tu as fait à côté de qui tu étais assis? Donc, en posant des questions ouvertes, l'enfant va avoir des réponses un petit peu plus élaborées. Ça risque de nous sécuriser comme parents. Ça risque aussi, lui, de l'aider à mettre des mots un petit peu plus sur les émotions. Comment tu t'es senti? Est-ce que tu te sentais fière de toi? Est-ce que tu as trouvé que c'était difficile? Donc, à ce moment-là, ça nous permet de pouvoir cibler les émotions avec lui. On peut utiliser aussi des petites histoires comme j'en ai dans Petit Loup. On peut utiliser aussi des marionnettes, des jouets, des toutous, les faire parler de cette façon-là. Fait que ça permet que l'enfant, au lieu qu'il parle de lui, est en train de parler finalement à travers un petit toutou. Ah, on a un petit toutou qui rentre à l'école lui aussi, on lui met un petit sac à dos. Puis comment tu penses qu'il se sent? Fait que ça peut permettre à l'enfant de pouvoir un peu plus exprimer ses émotions, mais à travers un petit objet ou un jeu, tout ça.
Oui, ouais. Qui est un peu plus distancé de lui.
Oui, c'est ça, il se sent un petit peu moins menacé. Puis le fait de pouvoir aborder ça avec lui, justement, à travers un jeu, ça rend le tout un petit peu ludique. On peut même faire un petit toutou qui revient de l'école avec l'enfant, mais nous aussi, un toutou qui revient du travail, puis on raconte un peu notre journée. Parce que nous autres aussi, nos journées ne sont pas juste faites de moments positifs. Ça peut nous arriver de dire, hey, aujourd'hui, c'était le fun, j'ai dîné avec une collègue, ça s'est bien passé. Mais cet après-midi, là, je vivais ça difficile. J'avais beaucoup de travail, je ne savais pas trop comment y arriver. Fait que ça dédramatise un peu pour l'enfant de dire « Ah ben maman aussi, sa journée n'est pas parfaite. »
Elle a des doutes.
Il y a des doutes ou tout ça. Puis on a souvent tendance comme parents à dire à l'enfant « Ça va bien aller, tout va être parfait. » Et si ça ne se passe pas parfaitement, là, l'enfant est déstabilisé. On est mieux de dire « Ça se peut qu'il y ait des choses qui ne se passent pas comme tu avais prévu, mais je suis certaine que tu vas trouver des solutions et je suis certaine que ton enseignante va pouvoir t'aider si toi, tu n'en trouves pas. » Donc, il ne faut pas leur dire que tout va bien aller parce que là, le drame devient plus grand quand il arrive une petite peccadille.
Mm-hmm. À l'école, il y a des apprentissages qui doivent être au rendez-vous ou du moins qui doivent se développer. Je pense entre autres à attendre son tour parce que l'enseignante en a plein les bras. Il y a beaucoup d'élèves dans une classe, c'est pas comme en garderie, c'est pas comme à la maison. Les familles sont petites de nos jours. Est-ce qu'on peut préparer notre enfant à développer ces aptitudes-là?
Oui, puis en fait, les parents ont souvent tendance à se centrer sur des apprentissages très pédagogiques ou scolaires. Ouais. Apprendre à écrire son nom, apprendre à compter jusqu'à 10, alors que l'enfant a beaucoup plus besoin de développer son autonomie, apprendre à se déshabiller seul, apprendre à accrocher son manteau sur un crochet. Les enseignants mentionnent souvent à la maternelle que beaucoup d'enfants tendent les bras puis attendent qu'on les habille, alors qu'ils devraient développer ces habiletés-là, être capable d'exprimer ses émotions, être capable de faire une demande à l'enseignant, de dire « j'ai besoin d'aide, ça va pas pour mon travail ». Ça, c'est des habiletés qui sont davantage aidantes pour les enseignants et pour l'enfant d'être capable de le faire. Donc, oui, être capable d'attendre son tour, de tolérer un certain délai. Donc, c'est on joue
le partage.
Oui, on joue plus dans la zone, mettons, affective et sociale qu'intellectuelle. Les apprentissages intellectuels ou pédagogiques, académiques vont se faire naturellement à l'école, dans un contexte de groupe. L'enseignante a ses stratégies, ça va bien se faire. Alors, un enfant qui serait aucune lettre et aucun chiffre à l'entrée à la maternelle, il va arriver à la fin de la maternelle au même point que les autres. Oui. Il n'y a pas d'inquiétude.
Et ça, c'est assez intéressant et c'est vrai qu'on n'y pense pas à développer ce côté-là plus émotif. D'ailleurs, côté émotion, et ça, je trouve que c'est un clin d'œil formidable, vous parlez de cette boîte à peur que l'on peut utiliser avec notre enfant.
Oui, en fait, c'est une stratégie que je trouve intéressante parce que l'enfant de cet âge-là, mettons entre 4 et 8 ans, accorde beaucoup d'importance à l'imaginaire, accorde beaucoup d'importance à des petits éléments qu'il va considérer comme un peu magiques. Alors, s'il y a une peur à l'intérieur de lui, il a l'impression qu'elle va prendre toute la place. Alors, on peut construire une petite boîte à peur avec l'enfant qu'on décore, puis on dit, tu peux l'écrire, tu peux la dessiner, dépendant de l'âge de l'enfant. On la met dans la boîte. À partir du moment où elle est dans la boîte, elle n'est plus à l'intérieur de toi, elle est à l'extérieur. Et à la fin de la semaine, on peut aller porter la boîte à peur au recyclage. On peut aller les jeter ou il y en a qui vont faire des petits feux thématiques avec ça.
Mais c'est disparu. Ouais.
Mais c'est disparu. Puis pour l'enfant, il y a comme une symbolique reliée à ça qui va faire en sorte qu'il peut se confier s'il y a une peur à l'intérieur de lui puis qu'il ne se sent pas à l'aise d'en parler à son parent. Bien, il peut aller la dessiner puis la glisser dans sa petite boîte à peur.
Très, très rapidement. Parce qu'il reste une minute.
Oui.
Le souhait de tout parent, c'est que son enfant aime l'école.
Soit bien.
Comment on peut lui transmettre ça?
Bien, je pense qu'il faut justement lui faire confiance. Puis dans le fond, l'enfant, il a besoin beaucoup plus d'être outillé, que ce soit lui qui applique les propres stratégies plutôt que ce soit nous qui allons régler les choses dans la cour d'école. Donc, s'il nous rapporte une situation, de lui dire « qu'est-ce que tu aurais pu faire dans cette situation-là? » Donc, on essaie de l'outiller le mieux possible pour que lui, il vive ça.
Et le rendre autonome.
Le rendre autonome,
voilà.
Tout à fait.
Solène Bourque, un plaisir de vous rencontrer. Merci. Pour en savoir davantage, solenebourque.com. Il y a une panoplie d'articles, d'astuces, d'outils. Il est formidable, votre site.
Merci.
Merci beaucoup de votre participation à l'émission. C'était très outillant.
Merci.
Au plaisir. Oui. Mathieu Tessier à la mise en onde, Christiane Campagnan à la recherche, Marianne Paquette au micro. On se donne rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous bien. Bye-bye.